En décembre 1920, près de 300 délégués socialistes se retrouvent dans la salle du manège à Tours pour le 18e congrès du Parti socialiste. Ils savent que ce congrès sera historique puisque tous les jeux sont faits. La majorité des délégués, et parmi eux ceux de la Loire-Atlantique, ont un mandat clair entre les mains, acter la transformation du Parti socialiste en parti communiste. La fédération départementale a voté à 54% pour la motion des communistes contre 35% à la motion réformiste et 11% à la motion dite centriste. Le parti socialiste de notre département est à l'image du parti au niveau national. Plus rien n'unit les socialistes français. Il y a ceux qui ont applaudi à l'Union sacrée en 1914, qui regardent avec méfiance la révolution russe, qui ont confiance dans les figures charismatiques du parti pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, qui pensent que le socialisme peut se bâtir par le bas au niveau des communes et en nouant des alliances avec une partie des républicains pour contrer la droite et les réactionnaires. Et il y a ceux qui n'ont pas digéré la trahison de 14 une fois Jaurès enterré, qui ne supportent plus le modérantisme des dirigeants, alors que la révolution est à l'ordre du jour, qui veulent des élus qui soient à l'écoute des militants et non au service de leur propre carrière. Et puis, il y a ceux qui pensent que, en effet, une nouvelle période s'ouvre depuis 1917, mais que l'unité du parti demeure importante et que les socialistes n'auront rien à gagner s'ils partent divisés au combat. 54, 35, 11, ai-je dit, pour illustrer le rapport des forces départementales. Mais il faut aller plus loin. Sans doute dans chaque section du parti, on trouve des militants se rattachant à chaque tendance. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la rupture est géographique. Nantes, qui rassemble 750 des 1100 adhérents du parti, est totalement acquise à la tendance révolutionnaire. À Saint-Nazaire, au contraire, autour de personnalités comme le trop méconnu Henri Gauthier et le jeune François Blanchot, un futur notable, le parti est sur une ligne modérée. Et les échanges sont violents dans les sections et entre les militants. Cette violence verbale, on la retrouve également au sein de la CGT. Mais alors que le parti socialiste est dominé par le courant révolutionnaire, la CGT demeure entre les mains des réformistes. Le secrétaire de l'Union départementale se nomme Cassin et c'est un fervent défenseur de l'indépendance syndicale, d'autant plus depuis que le Parti socialiste est passé entre les mains des Rouges. Des Rouges qui lui en font voir de toutes les couleurs depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Après 4 années durant lesquelles il était extrêmement difficile de se mobiliser, de faire grève pour ses revendications sans subir la répression policière, on assiste à une nette remontée des luttes sociales. Les syndicalistes modérés sont chahutés, mis en cause par des ouvriers qui ne supportent plus les privations et la militarisation du travail, par des prolétaires acquis aux idées révolutionnaires, à cette révolution russe dont on ne sait avec certitude pas grand-chose, sinon que quelque chose se passe et que l'espoir semble au bout du fusil. Ne faisons pas de tous ces militants communistes des léninistes convaincus. Certains sont marxistes, mais beaucoup veulent faire avant tout la révolution. Beaucoup sont porteurs d'une culture libertaire, anarchisante. Ont-ils tous conscience de ce que le bolchevisme va induire dans le fonctionnement du parti? Non, ils veulent un parti de combat, et pas un parti entourant d'affection des notables grands et petits. Ils veulent rompre avec la Deuxième Internationale, ce rassemblement des partis socialistes qui a fait faillite en 1914, en étant incapable de mobiliser les socialistes par-delà les frontières pour empêcher que n'éclate la grande boucherie. Et ils sont pour adhérer à la Troisième Internationale, celle de Moscou. Cette violente déchirure du Parti socialiste ne profite à personne localement. À Nantes, le jeune Parti communiste ne rassemble que quelques dizaines de militants dont le point commun principal est l'hostilité au réformisme. Une fois les réformistes chassés de l'organisation, les divergences de vues ne vont pas tarder à éclater. Durant les années 20 et 30, le Parti communiste ne parviendra jamais à se constituer en force politique capable de rivaliser avec le Parti socialiste maintenu. Du côté de la CGT, la scission intervient une année plus tard. Va naître la CGTU pour unitaire, rassemblement hétéroclite de communistes, d'anarchistes et de syndicalistes révolutionnaires. Et là encore, cette CGTU sera une véritable pétaudière. Mais ça, c'est une autre histoire.